Chapitre 21. La prison. Si un chrétien de nos jours voulait savoir ce que nos pères ont supporté pour la foi pendant les 3 siècles de persécution, nous ne nous contenterions pas de lui faire visiter les catacombes et de lui apprendre quel était le genre de vie des premiers chrétiens, mais nous lui conseillerions la lecture des Actes des martyrs, ces immortelles annales où il verrait comment on les faisait mourir. Après les paroles de Dieu, il n'y a pas de lecture plus attendrissante, plus consolante et plus propre à fortifier la foi et à animer l'espérance que ces véritables monuments des âges anciens. Si notre lecteur ne pouvait pas disposer d'assez de temps pour lire beaucoup sur ce même sujet, nous lui indiquerions comme un admirable spécimen les actes authentiques de Sainte Perpétue et de Sainte Félicité. Il est vrai que la meilleure manière de les lire pour un homme initié aux langues anciennes serait d'aller les chercher dans le texte original, c'est-à-dire dans leur latinité africaine. Ceux qui nous ont été conservés sont les mêmes qui sont élus par saint Augustin et personne ne saurait les parcourir sans émotion. Si le lecteur comparait la sensibilité morbide et la surexcitation fiévreuse qu'un écrivain français a voulu produire, en composant l'histoire d'un condamné à mort, depuis sa condamnation jusqu'à l'exécution de la sentence, avec le style si simple, si plein de vérité qu'on retrouve dans la correspondance et le récit de Vivia Perpetua, une délicate jeune fille de 21 ans, le lecteur saurait discerner que les simples récits des chrétiens sont plus naturels, plus gracieux et plus intéressants que les fictions les plus hardies de nos romanciers. Quand les tristesses de notre temps apportent la défaillance à nos esprits et que nos faibles cœurs s'inclinent et murmurent, portons nos regards vers cette légende d'or véritable où rappelons-nous l'histoire des nobles martyrs de Vienne, de Lyon et de leurs frères et ranimons notre courage à la pensée de ce que des femmes, des enfants, des catéchumènes et des esclaves ont souffert pour l'amour du Christ. Mais revenons à notre récit. Pancratius, chargé de fer, enchaîné avec 20 autres prisonniers, parcourut les rues de la ville qui conduisaient à la prison. Pendant le trajet, les prisonniers chancelaient et trébuchaient, et les gardes qui les conduisaient les frappaient sans pitié. Les passants qui pouvaient les atteindre ne leur épargnaient ni les coups ni les soufflets, tandis que les plus éloignés leur lançaient sans remords des pierres, des immondices, et mêlaient des blasphèmes et des injures aux mauvais traitements. Ils atteignirent enfin la prison mamertine, où on les jeta pêle-mêle dans un cachot où d'autres victimes des deux sexes attendaient déjà le moment de leur sacrifice. Pendant qu'on lui mettait les menottes, l'adolescent avait eu le temps de demander à un de ses gardiens de prévenir sa mère et Sébastien de ce qui lui était arrivé. En retour de ce léger service, il lui glissa sa bourse dans les mains. Une ancienne prison à Rome n'était pas un lieu de repos où le pauvre pouvait désirer de trouver un asile, espérant y rencontrer une meilleure nourriture et un logement plus sain que dans son humble maison. 2 ou 3 de ces donjons, car c'est le seul nom qu'on puisse leur donner, subsistent encore. Nous en décrirons un afin de donner à nos lecteurs une idée de ce que les confesseurs de la foi souffraient avant d'arriver au martyre. La prison mamertine se compose de 2 salles carrées souterraines, situées l'une au-dessous de l'autre. Une seule ouverture ronde pratiquée au milieu de chaque voûte laissait passer la lumière, la nourriture, l'air et les prisonniers. Quand la salle la plus haute était remplie, l'air et la lumière ne pouvaient naturellement pénétrer à l'étage inférieur. Il n'existait pas d'autre mode de ventilation, d'écoulement des eaux, et on ne pouvait y pénétrer d'une autre façon que par cette ouverture. On voit encore dans les murailles, composées de larges blocs de pierre, des anneaux de fer destinés à retenir les prisonniers. Un grand nombre d'entre eux restaient couchés sur la terre avec des fers aux pieds. L'ingénieuse cruauté des persécuteurs venait encore accroître les souffrances des prisonniers étendus sur le plancher humide, en répandant des morceaux de vase brisés, la seule couche donnée aux chrétiens pour reposer leurs membres mutilés et leurs corps sanglants. En Afrique, toute une société de martyrs, à la tête desquels nous trouvons saint Saturninus et saint Davitus, périrent par suite des souffrances endurées dans la prison. Les Actes des martyrs lyonnais rapportent qu'un grand nombre des nouveaux venus expirèrent à la suite des rigueurs de la prison, avant que leur corps ait enduré d'autres tourments. D'autres prisonniers, au contraire, rejetés dans leur cachot, après avoir enduré des tortures qui ne laissaient plus d'espoir pour leur vie, se guérissaient sans secours et sans remède. Pendant ce temps, les chrétiens achetaient l'accès de ces asiles de la souffrance, mais non de la tristesse. Ils s'efforçaient de procurer à ces frères si chers et si vénérés tout ce qui pouvait soulager leurs souffrances et fortifier leurs âmes et leurs corps. La justice romaine exigeait au moins les formes extérieures d'un procès. C'est pourquoi les prisonniers chrétiens étaient conduits de leur donjon devant un tribunal où ils subissaient une sorte d'interrogatoire. Les actes des martyrs nous ont conservé les plus précieux exemples de ces examens, tels qu'ils furent écrits à l'heure même par le secrétaire ou greffier de la cour. Lorsque Potinus, l'évêque de Lyon, dans sa 80e année, parut devant le juge qui lui demanda « Quel est le Dieu des chrétiens ?» L'évêque répondit avec une simple dignité « Quand tu en seras digne, tu le connaîtras. » Quelquefois, le juge commençait une discussion avec son prisonnier et avait naturellement le moins beau rôle, quoique le prisonnier évitât ordinairement les longues déclamations et se bornât d'ordinaire à une simple profession de foi chrétienne. Souvent, comme dans le récit de l'interrogatoire d'un certain Ptolémée, dont saint Justin nous raconte admirablement le martyre, et dans celui de sainte Perpétue, le juge se contentait de poser une seule question. « Es-tu chrétien ?» Et sur la réponse affirmative, il prononçait la condamnation capitale. On conduisit Pancratius et ses compagnons devant les juges. Il n'y avait pas de temps à perdre, encore 3 jours, et le mimus, ou les jeux publics, allait s'ouvrir, et les prisonniers devaient combattre avec les bêtes féroces de l'amphithéâtre. « Qui es-tu » demanda-t-on à l'un d'eux. « Je suis chrétien par la grâce de Dieu, » répondit-il. « Et toi, qui es-tu ? » dit le préfet à Rusticus. « Je suis en vérité un esclave de César, » répondit le prisonnier, « mais en devenant chrétien, j'ai été affranchi par le Christ, et par sa grâce et sa miséricorde, il m'a admis à partager les mêmes espérances que mes compagnons. » Alors, se tournant vers un saint prêtre, Lucianus, aussi vénérable par ses années que par ses vertus, le juge s'adressa à lui. « Allons, obéis aux dieux et aux édits impériaux, » lui dit-il. « Nul, répondit le vieillard, ne peut être repris ou condamné pour obéir aux préceptes de Jésus-Christ. Quel est l'objet de tes études et de tes recherches habituelles ? J'ai étudié toutes les sciences, j'ai essayé d'approfondir toutes les branches des philosophies. Mais à la fin, je me suis attaché aux doctrines du christianisme, quoiqu'elles ne puissent plaire à ceux qui suivent les erreurs des fausses opinions. Misérable, comment peux-tu trouver ton bonheur dans une telle étude ? J'y trouve le plus grand bonheur, la doctrine des chrétiens contient la vérité. Et quelle est cette doctrine ? La vraie doctrine des chrétiens est la croyance à un seul Dieu, maître et créateur des choses visibles et invisibles, et la confession du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, annoncé autrefois par les prophètes, qui doit venir juger l'humanité et qui est le prédicateur et le maître du salut pour tous ceux qui suivent sa doctrine. Mais je suis un homme trop faible, trop simple et trop insignifiant pour parler dignement de son infinie divinité. Cette mission appartient aux prophètes. Je pense que tu es un maître d'erreur et tu dois être puni plus sévèrement que les autres. Mettez Lucianus sur le chevalet et écartez ses pieds jusqu'au 5e trou. Et vous, les 2 femmes, quels sont vos noms et votre condition ?
Je suis chrétienne, je n'ai pas d'autre époux que le Christ. « Mon nom est Segunda, » répondit l'une. « Et moi, je suis une veuve nommée Rufine, professant la même foi de salut, » répliqua l'autre. Enfin, après avoir posé des questions semblables à tous les condamnés et avoir reçu de tous des réponses analogues, excepté d'un misérable qui, à la grande douleur des autres prisonniers, faiblit et sacrifia aux dieux, le préfet se tourna vers Pancratius et lui dit « Et maintenant, insolent jeune homme, qui a eu l'audace de déchirer l'édit des divins empereurs, même pour toi il y aura miséricorde si tu veux sacrifier aux dieux. Montre ainsi ta piété et ta sagesse, car tu n'es encore qu'un enfant. » Pancratius traça pieusement sur lui le signe de la rédemption, puis il répondit avec calme « Je suis le serviteur du Christ. C'est lui seul que ma bouche reconnaît, que mon cœur aime et que mon esprit adore constamment. cette jeunesse que vous regardez en moi à la sagesse de l'âge mûr, du moment où elle adore le seul vrai Dieu. Mais vos dieux et ceux qui les adorent sont destinés à l'éternelle destruction. Frappez-le sur la bouche pour le punir de son blasphème et battez-le de verges, cria le juge furieux. Je te remercie, répondit doucement le noble enfant. Je vais ainsi souffrir la même peine qu'on a infligée à mon seigneur. Alors le préfet prononça la sentence selon la forme accoutumée. Lucianus, Pancratius, Rusticus et leurs compagnons, et les femmes Secunda et Rufina, qui se sont avoués chrétiens et ont refusé d'obéir au divin empereur et d'adorer les dieux de Rome, seront exposés aux bêtes féroces dans l'amphithéâtre de Flavien. La foule hurla de joie et de haine et accompagna les confesseurs jusqu'à la prison avec cette musique féroce. Mais bientôt, la dignité de leur maintien et la calme sérénité de leur physionomie apaisèrent l'assistance. Quelques personnes affirmèrent que les chrétiens devaient se parfumer, car en les approchant, on sentait autour d'eux une atmosphère embaumée.